Nous voici donc devant le Moulin Rouge, place Blanche, au kilomètre 256 de notre remontée de Sources-Seine jusqu'à la mer. Lâchez tout, partez sur les routes, disait André Breton, et c'est ce que nous avons fait, Vincent, qui est en face de moi, avec son micro et son air sourcilleux quand je m'égare, et moi. André Breton a habité à deux pas d'ici, au 42 de la rue Fontaine, dans un appartement semé de fétiches, de son extraordinaire collection de bénitiers et des tableaux des peintres surréalistes qui furent ses amis. C'était l'un des lieux les plus poétiques et les plus étranges de Paris. On voit sur le mur du 42 rue Fontaine, juste derrière nous, là, en descendant, une plaque qui rappelle les dates de naissance et de mort d'André Breton, avec cette phrase « Je cherche l'or du temps » qui figure aussi sur sa tombe du cimetière des Batignolles. Breton vivait rue Fontaine et a vécu rue Fontaine, mais il vivait aussi surtout dans les cafés avec son groupe, et cette vie a été décrite par de nombreux auteurs, par de nombreux témoins, elle a été décrite par Nadeau, elle a été décrite même par Gracq, et cette vie de café m'a longtemps fait rêver. Et c'est à deux pas de l'endroit où nous sommes, derrière la place Blanche, au Café Fontaine, qu'il a lu Nadja pour quelques amis en novembre 1927. Au moment où il le lit, d'ailleurs, c'est une histoire assez triste, mais la véritable Nadja, qui s'appelait Léone Delcourt, était à l'asile depuis 6 mois après avoir écrit à Breton une lettre où on pouvait lire « Comment avez-vous pu écrire de si méchantes déductions de ce qui fut nous sans que votre souffle ne s'éteigne ?» Elle sera transférée dans un autre asile du Nord où elle devait mourir de malnutrition et d'épuisement en 1941. « Dis-moi qui te hante et je te dirai qui tu es. » Avec le Café Fontaine, il y avait le Café Cyrano, comme Cyrano de Bergerac, qui s'élevait juste en face de là où nous sommes. Il a été remplacé par ce que nous voyons devant nous là, et qui est un Quick, qui vend des Quality Burgers. Quand on regarde les photos d'époque, on s'aperçoit que le Quick, enfin je veux dire le café, le Cyrano, avec une énorme enseigne rouge qui écrasait même l'enseigne du Moulin Rouge, c'est-à-dire si c'était spectaculaire, que le Cyrano était entouré par 3 cabarets. Le ciel, l'enfer et le cabaret du néant. Au ciel, on était accueilli par des anges, qui n'ont commencé pas de sexe. À l'enfer, on était accueilli par des démons, car les anges maléfiques sont des femmes, au moins pour les surréalistes. Et quant au néant, on n'en sait rien, ce qui est bien normal. Tout ça a disparu. La porte du ciel est devenue, on la voit en face de nous, celle d'un monoprix. L'enfer a été remplacé, ce qui est bien normal aussi, par un sex shop. Et il n'y a plus de traces du néant, à moins que le néant ne soit en réalité partout autour de la place Blanche. Et c'est ici, au Cyrano, qu'a lieu l'épisode dont je voulais vous parler ce matin et qui est le célèbre épisode des pois sauteurs, ce qu'on appelle la querelle des pois sauteurs. La scène se passe un matin de décembre 1934. Breton et ses amis sont au café Le Cyrano et Roger Caillois, qui fut un très grand écrivain de ce temps, montre à Breton une petite boîte avec dans la boîte des pois, comme des pois chiches, quoi, comme des petits pois. Et ces pois sont animés de mouvements incontrôlables. Ils s'agitent à l'intérieur de la boîte en faisant des petits bruits. Ces pois viennent du Mexique. Alors Breton est évidemment séduit par les pois et par l'origine mexicaine des pois. Breton a toujours aimé le Mexique. C'est là qu'il a rencontré Trotsky, dont en politique il s'était fait le disciple. Et le Mexique est devenu, après la Russie, la patrie rêvée des surréalistes, comme d'ailleurs la patrie rêvée d'un certain nombre de personnalités de la gauche française. Pendant longtemps, disait Jean Plumienne, les socialistes français, du moins les socialistes de l'extrême, enfin ceux qui sont en façon Ushuaïa, sont restés un peu mexicains, guérilleros, zapatistes et matière brute. On en voit par exemple les traces ultimes dans l'œuvre de Le Clésio. Je reviens au poids. Ah, les gens de ma génération ont connu ces poids plus tard. Peut-être que même Vincent, qui sourit en écoutant, a également connu ces poids, car ces poids étaient distribués par un journal du Parti communiste qui s'appelait PIF. Et donc PIF distribuait les poids. Nous voilà donc en 1934, un peu avant PIF. Et tout de suite, Caillois et Breton s'opposent à propos de ces poids avec une rare violence. Caillois veut les éventrer à la pointe de son opinel pour trouver une explication au mystère. Breton, évidemment, s'y oppose au nom du mystère, car si on les éventre, toute la poésie du monde disparaît avec cette éventration. On est tout près d'en venir aux mains. Le tiers de l'assistance prend le parti de Caillois, les 2/3 de l'assistance prend le parti de Breton, des cris, des insultes fusent, une alternance de glaciation bretonienne et d'éructation générale. Bref, à la fin, on se sépare, les pois continuant de vivre sur la table de leur vie mystérieuse en secouant la boîte d'allumettes où Caillois les avait rangés. Il y a évidemment quelque chose de très touchant dans cette querelle absurde. Et ce quelque chose tient à mon avis à l'amitié des surréalistes. Cette amitié, qui est réelle, s'organise autour d'une absence dont, au fond, Breton n'est que le vicaire. Le surréalisme est un sacrement daté, et je pense que Breton avait compris qu'ouvrir les proies détruirait, et son rôle est plus important, l'amitié elle-même. Le mystère était nécessaire à André Breton. Mais à présent qu'André Breton est mort, je peux bien maintenant vous donner l'explication de mystère sans le compromettre ni l'avenir du mouvement surréaliste. Et cette explication est assez simple. Un papillon des montagnes du Chihuahua, au Mexique, qui s'appelle le Carpocarps des euphorbiacées, pond ses vers dans une euphorbe d'une plante. Après l'éclosion, les larves bougent dans le poids, donnant l'impression de la vie. On dirait en effet une métaphore du mouvement surréaliste lui-même. À présent que le temps a passé, évidemment, j'en parle avec un peu d'ironie et j'ai tort. J'ai tort parce que devant le Cyrano, entre le Cyrano et le 42 rue Fontaine, dans ce Paris de la Place Blanche, qui a été l'un des centres du mouvement surréaliste, avant de se répandre d'ailleurs sur toute la surface de la Terre, ou une large partie de cette surface, je me souviens du mouvement que le surréalisme a provoqué chez moi, comme chez tant d'autres. Ce sentiment d'un au-delà des apparences, ce sentiment d'un même fluide électrique qui parcourait les œuvres et les vies de Breton, de Desnos, de Magritte, de Buñuel, et au fond, je resterai jusqu'au bout le frère de ces milliers de débutants qui, de 1920 à 1980, se sont passionnés pour le bric-à-brac des grands ancêtres empaillés, pour le souvenir de Vacher, pour les arts premiers, les regards impérieux, les muses à gants noirs, et la grande incertitude de tout, et même les pauvres femmes, comme cette Nadja qui s'appelait Léone Delcourt et qui est morte dans l'indifférence générale. Et devant la façade de ce couic qui s'élève maintenant devant nous comme un blasphème, je pense à cette île de Pâques que le surréalisme a fait jaillir sous nos yeux. Et je pense à ce que disait l'un de leurs tracts au moment de la première révolution surréaliste. Parents, racontez vos rêves à vos enfants.